du sommeil et plus particulièrement des troubles du sommeil, l'insomnie par exemple. Là en ce moment on est en période du bac, je suppose qu'il y a plein d'étudiants qui sont dans cette situation de stress. Donc on va essayer un peu de démêler tout ça avec vous, avec ce que vous pouvez nous en dire et pourquoi pas éventuellement essayer de trouver quelques solutions, quelques remèdes. Donc voilà, ma première question, à quoi peuvent être dus les troubles du sommeil tels que les insomnies?
Alors, en général, il faut aller chercher déjà dans le contexte, dans ce que vit la personne, le patient. Là, vous parliez des examens. Donc, effectivement, les examens sont reliés à une émotion qui est la peur. La peur de ne pas réussir. Voilà. Donc là, c'est très contextuel, momentané, périodique. Sinon, il y a des insomnies davantage liées à l'histoire de la personne, du patient, à ses croyances et son histoire, quand son histoire est notamment liée au fait qu'elle a grandi dans un milieu insécure. Donc là, on va aller chercher ce qui s'est passé. Elle n'a pas nécessairement conscience de ce qui s'est passé dans son enfance. C'est souvent lié à l'enfance, même quelquefois à la toute petite enfance, au comportement des parents également, aux croyances des parents, leur éducation. Voilà. Mais chaque histoire est différente. Et là, il s'agit de comprendre que nous ne sommes pas notre histoire, de ne pas s'identifier à notre histoire. Voilà, cela fait partie de notre passé. Nous avons vécu ceci, le départ d'un parent qui aura peut-être généré des inquiétudes, le départ du papa par exemple, qui aura généré des inquiétudes, ou un parent maltraitant avec des peurs. Encore une fois, la peur est souvent présente. La peur qui va amener une hypervigilance, c'est-à-dire que je ne vais pas m'endormir au cas où il arriverait quelque chose, ou même quand il y a maltraitance dans une famille, au cas où il arriverait quelque chose à maman.
Donc on est dans le contrôle permanent.
Absolument, le contrôle.
Donc, d'après vous, on peut avoir des prédispositions comme ça aux troubles du sommeil. Est-ce que c'est héréditaire? Est-ce que si mon papa est insomniaque, est-ce que je vais l'être forcément?
Alors, c'est pas inscrit dans les gènes. A priori, rien ne prouve que ce soit inscrit dans les gènes. C'est plutôt lié à des comportements. C'est-à-dire que si nous avons un père anxieux, donc l'anxiété est encore liée à la peur. On va se retrouver sans cesse relié à cette émotion. Donc papa est anxieux parce que, je ne sais pas, un papa qui s'inquiète pour ses enfants, un papa qui s'inquiète pour son travail, pour son avenir. Et effectivement, même s'il était amené à dire à ses enfants « Écoutez, mes chéris, tout va bien, je vais bien et la vie est belle, etc. » L'enfant, lui, et notamment tout petit, ne va pas percevoir le verbal. Lui, il est très intelligent, l'enfant est très intelligent sur un plan émotionnel, et lui va percevoir d'abord le non-verbal. Donc le non-verbal, c'est l'expression du visage sur le parent anxieux, c'est la gestuelle, c'est la voix qui va devenir plus grave et moins joyeuse quand le parent est anxieux. Voilà, donc en fait d'inconscient à inconscient, nous communiquons. Et encore aujourd'hui, en tant qu'adulte, on communique à 80% environ dans le non-verbal, donc dans la gestuelle, les postures, les expressions du visage et le regard, etc. etc. Par exemple, je vais accompagner chez les enfants qui n'arrivent pas à dormir. Ils dormaient bien, puis un jour, on ne comprend pas, ils ne dorment pas.
Quel âge à peu près?
Alors, ça va commencer en primaire, après, ça peut aller jusqu'à l'adolescence, l'entrée en collège vers 11 ans. À la maison, tout va relativement bien, seulement à l'école, ça ne va pas bien. À l'école, ça ne va pas bien et on va aller voir ce qui se passe, notamment à l'école, s'il n'y a pas du harcèlement, harcèlement scolaire. Et là, souvent, on découvre des choses qui n'ont pas été dites. L'enfant ne se sera pas exprimé pour protéger peut-être ses parents, peut-être aussi parce qu'il est dans le déni et parce qu'aussi c'est un enfant qui n'a pas l'habitude d'être écouté, peut-être aussi on ne lui laisse pas la place, il est dans une grande fratrie et personne n'y a pensé et voilà. Et l'enfant va commencer à finalement à avoir peur et en fait quand on a bien cerné le problème, ça se règle assez vite.
Donc en fait même si l'enfant ne l'exprime pas verbalement, le corps trouve un moyen de... d'exprimer ça.
Absolument. Déjà, l'insomnie est une grande souffrance. Ça, c'est une réalité. Donc, les personnes insomniaques sont très, très mal hein, dans leur peau au quotidien. Ça ne se voit pas nécessairement. Donc, c'est effectivement un symptôme de mal-être dans notre quotidien. D'accord. C'est-à-dire que le mal-être n'est pas juste, n'a pas lieu que la nuit au moment de l'endormissement ou au moment du réveil, mais c'est surtout ce qui se passe dans la journée.
Ouais.
C'est là qu'il s'agit d'aller chercher, en tout cas sur un plan analytique, psychanalytique, psychologique si vous voulez, d'aller chercher ce qui se passe. Voilà. Ensuite, effectivement, il y a plein de petites choses, plein de petits tuyaux en sophrologie qu'on peut communiquer aux gens pour s'endormir. Quand je dis des petits, ce sont des petits, ils sont simples, mais ils sont très très importants hein, pour ces personnes en grande souffrance.
D'après vous, quels sont les risques à court et à long terme comme ça d'un manque de sommeil, mis à part voilà, ce profond mal-être, qu'est-ce que ça peut provoquer ?
Bon, le court terme, c'est la fatigue. Scolairement, c'est l'échec scolaire. C'est le mal-être au quotidien, sans que l'enfant ne comprenne vraiment pourquoi. Et puis le mal-être à la maison, le mal-être à l'école, dans les relations, dans ses relations aussi avec les autres. Il peut, comme il est en souffrance, il peut aussi s'isoler. Et puis, bien sûr, il peut chroniciser cette insomnie qui va persister peut-être quelquefois toute sa vie. Et évidemment s'accentuer dans les périodes de stress. Ah voilà, vous n'allez pas trouver le sommeil, ça va s'accentuer et quelquefois certaines personnes ne dorment pas du tout, même si elles seront amenées à récupérer les jours suivants. De toute façon, on ne peut pas vivre sans sommeil. Donc ce qui va se produire, c'est que quelqu'un qui n'a pas dormi la nuit, donc, ou qui aura fait juste des micro-sommeils dans la nuit, va être amené à en faire dans la journée de toute façon. C'est pour ça qu'on a tellement de difficultés, quand on a trop peu dormi la nuit, à rester concentré. On sera amené à peut-être avoir une baisse de vigilance, c'est-à-dire qu'on s'est endormi au volant, même si on ne s'en est pas rendu compte sur une demi-seconde. Et sur une demi-seconde, on peut rentrer tout à fait dans une voiture qui a freiné devant. Le sommeil est constitué de plusieurs cycles, donc une nuit plutôt de plusieurs cycles. Un cycle va durer 1h30 environ. On va commencer par un sommeil lent, léger. Ensuite, c'est le moment où on s'endort. C'est le moment où on a l'accident de voiture, par exemple, où on a lâché. Et ensuite, sommeil profond. Et ensuite, sommeil paradoxal. Donc, dans le sommeil profond, le corps récupère, c'est-à-dire les tissus récupèrent, les muscles, etc., etc. Et dans la partie plus du sommeil paradoxal, la partie où on rêve davantage, c'est plutôt, on va plutôt travailler la mémoire la concentration, etc. Donc effectivement, si on ne dort pas, on ne peut pas se réparer. Donc on sera, le système immunitaire finalement sera plus bas et on attrapera davantage, alors ça peut aller du rhume à des pathologies beaucoup plus graves finalement.
Je m'égare un peu, mais par exemple, par curiosité, pour les personnes qui travaillent de nuit, vous savez comment elles font pour gérer
Les micro-flashs, les sommeils flash, sieste flash, c'est le meilleur outil. On va lâcher quelques minutes pour récupérer, effectivement. Oui. On récupère.
Donc, les siestes, pour vous, ça permet vraiment de compenser ça.
Oui.
C'est quoi la durée
Même si c'est une minute, on récupère déjà en une minute. Si c'est une demi-minute, 30 secondes, on récupère même en 30 secondes. On récupère. Donc... voilà, 3 minutes, 4 minutes, 5, on peut déborder un petit peu. Alors, il y a certaines personnes, effectivement, si la sieste est trop longue, vont se sentir plus fatiguées après. Bon, voilà, c'est vraiment selon... On est quand même tous différents, hein. On a des points communs, mais on est tous différents.
Je semble comprendre que, voilà, le corps et l'esprit sont liés...
Alors, le mental, en fait, oui. C'est pas le corps et l'esprit, c'est plus précisément le mental.
D'accord.
En fait, j'irais jusqu'à dire que effectivement ils sont reliés, et voire pire, ils ne font qu'un. Ils ne forment qu'un. Alors, le mental, c'est aussi... bon, c'est l'ego. Bon, là, on rentre dans quelque chose de plus analytique.
C'est l'ego ?
Ouais, ouais, le mental prend le dessus. Ce qui se passe la nuit, c'est que au moment d'aller, pour les gens qui s'endorment, qui ont du mal à s'endormir, eh bien, il y aura des problèmes qui n'auront pas été résolus dans la journée. C'est pour ça que la journée est si importante. Et au lieu de récupérer au moment d'aller se coucher, eh bien, là, le mental va commencer à s'activer. Alors on peut commencer à avoir des pensées sur ce qu'il y a à faire demain. Donc nous avons un cortex frontal, la partie la plus développée externe du cerveau, hein, c'est celle qui fait que nous avons un cerveau plus important que le mammifère ou l'animal de base, bien que je ne diminue pas l'intelligence des animaux, hein, surtout pas, fait que nous avons cette capacité supérieure à anticiper. Donc, nous allons anticiper comment nous allons faire pour régler, par exemple, ce problème qui nous occupe tout l'esprit, la journée, la nuit. Et là, on ne lâche pas. On ne lâche pas. Le corps se met dans une disposition particulière, réagit à cette pensée qui finalement nous amène à l'action. Donc le corps, au lieu finalement de se mettre en mode pause, avec une respiration plus ventrale, en sécrétant des endomorphines par exemple, un anxiolytique naturel, eh bien nous aurons une respiration plus haute, respiration thoracique, la respiration plus rapide, avec le cœur qui va se mettre à battre beaucoup plus vite. Et là, on sera dans un corps prêt à passer à l'action. Et imaginez bien qu'un corps prêt à passer à l'action n'est pas prêt à s'endormir. Donc, il y a un effort à fournir. Quand on est comme ça, c'est comme un entraînement sportif, en fait. Hein, c'est vraiment un entraînement sportif. Il va s'agir de mettre de côté, d'essayer. Alors, ça ne se fait pas du jour au lendemain, surtout quand on est un grand insomniaque. Mais quand c'est pas encore trop chronicisé, quand ça fait pas des années et des années, ça va assez vite. Hein. Sinon, ça peut mettre plus de temps, mais c'est possible quand même.
Je suis allée sur votre site et vous avez mis une phrase « L'être humain n'est pas limité à un seul champ, il possède en lui toutes les ressources pour se guérir. » Bon voilà, je propose un accompagnement vers l'écoute fine des messages transmis par votre corps afin que vous trouviez le chemin de votre authenticité libre de toute croyance limitante. Ça veut dire qu'en fait, la réponse à ces troubles du sommeil tels que l'insomnie, on la trouve en nous.
Je vais me répéter par rapport aux endorphines ou endomorphines que nous pouvons sécréter, qui sont des anxiolytiques naturels et aussi un antidouleur, les antidouleurs. Okay. Voilà, donc effectivement, là, en l'occurrence, nous avons tout en nous.
Alors, vous les avez un peu évoquées, ces solutions pour essayer de lutter contre l'insomnie, etc. Est-ce que de façon un peu plus concrète, par exemple, un étudiant qui viendrait aujourd'hui, qui est en plein bac, qui n'en peut plus parce qu'il ne dort pas, et qui nous dit « je vais prendre du somnifère parce que j'en peux plus », qu'est-ce que vous lui conseilleriez de faire le soir quand il se met au lit pour éviter de trop penser
Alors déjà, la première chose, c'est alors tout simplement, hein, sans aller dans la sophrologie, puisque s'il en a jamais fait, c'est de s'étirer. De s'étirer. En fait, il s'étire et il va bâiller. Qu'il bâille pour amener une détente corporelle. Le bâillement amène une détente corporelle. Voilà, donc il peut bâiller, s'étirer. Et alors il va par exemple éviter de nourrir trop avant d'aller se coucher. Alors je vais plus l'orienter vers des légumes, qu'une viande rouge. Voilà, donc plutôt vers des choses faciles à digérer. Il s'endormira beaucoup mieux. Je vais lui proposer, avant d'aller se coucher, évidemment sortir de son écran, de ses écrans, ou s'il est obligé d'y aller, de baisser la lumière au maximum. Donc, pour ne pas se stimuler trop. Donc, il va s'agir de limiter les bruits, limiter les sons. C'est-à-dire que s'il aime écouter de la musique, qu'il aille écouter une musique plutôt calme, s'il a envie d'en écouter, et qu'il baisse la lumière au maximum. Voilà, pas de grands néons pour amener effectivement la mélatonine. La mélatonine qui va arriver, la sécrétion de la mélatonine qui va arriver avec la baisse de la lumière du jour, en fait. Hein. Donc, le corps est quand même relativement bien fait et qui va ramener le corps naturellement à du calme. Et ce qui se produit aujourd'hui, évidemment, c'est que bien artificiellement, nous avons les écrans, est arrivée il y a quelques années la télévision, et que les gens sont allés se coucher beaucoup plus tard, n'ont plus écouté leur corps. Donc même s'ils baillaient, si le marchand de sable passait, on va plus nécessairement se coucher comme avant, alors qu'avant, c'est ce qu'on faisait finalement. Donc c'est écouter son corps, être dans son lit au moment où les bâillements arrivent, ne pas hésiter à bien s'étirer pour détendre le corps. Pour les gens qui font du yoga, par exemple, faire une petite salutation pour s'étirer, faire quelques étirements. Et puis évidemment, quand on va se coucher, on ne va pas se coucher avec un polar passionnant, au risque de vouloir continuer à tourner les pages. On va plutôt prendre un magazine avec des articles courts, peu impliquants, pour sentir le sommeil arriver, les premiers bâillements, et à ce moment-là éteindre la lumière quand les premiers bâillements arrivent.
Et en termes de sophrologie, du coup, peut-être des petits exercices de respiration. Vous disiez vous focaliser sur la respiration abdominale. Est-ce que ça peut aider ?
Oui, donc on va aller voir chez le patient. Je vais aller voir déjà comment il respire. Donc dans son quotidien, je vais lui demander de respirer. S'il est plutôt dans une phase anxieuse, ou si c'est plutôt une nature anxieuse, il aura cette respiration haute. Voilà, une respiration, c'est la respiration de la peur, qui peut être latente. Et on va l'amener tranquillement à faire descendre sa respiration abdominale. Donc dans l'inspiration, à gonfler son ventre, et dans l'expire, à le creuser. Donc ça va être le premier travail d'entraînement. C'est un travail qui ne se fait pas nécessairement la veille d'un examen, j'insiste là-dessus. C'est un travail qui se prépare des semaines avant, voire des mois, et qu'on utilisera finalement toute sa vie pour s'endormir, si on a des difficultés à s'endormir de manière générale. Et c'est dans les expirations qu'on va apprendre à relâcher. Le corps va relâcher dans les expirations. Donc, inspiration, je remplis mes poumons, même si c'est une respiration abdominale, ça reste, l'air continue à rentrer dans nos poumons. Donc, je fais rentrer l'air dans mes poumons, et expiration, je relâche toutes les tensions musculaires. Si le corps est un peu en suspension, si nos épaules sont un peu en suspension, nos mains, quelquefois même on peut être amené, si on est hyper tendu, à ne même plus toucher le matelas avec nos mains, par exemple, dans les expirations, on va relâcher et détendre les muscles, évidemment desserrer nos mâchoires, desserrer nos sourcils dans les expirations. Et donc là, en faisant ce travail, j'en reviens à mes fameuses endomorphines que je vais sécréter, et également à la défocalisation par rapport à mes pensées. C'est-à-dire que là, on rentre dans quelque chose de plus méditatif, c'est-à-dire que je me concentre sur un objet neutre, qui est en l'occurrence ma respiration ventrale. Et si je reste bien concentrée sur ma respiration, si je pense dans les expirations à relâcher, je m'endormirai. Il y a d'autres techniques, bien sûr, mais voilà, il y a des personnes ou même des enfants avec qui ça fonctionne très vite.
Et ces exercices que du coup vous conseillez de pratiquer peut-être plus facilement allongés, est-ce qu'on peut les pratiquer aussi par exemple voilà pour se soulager avant un examen, pour peut-être diminuer le rythme cardiaque, voilà, éviter le stress?
Oui, c'est le projet aussi. Donc, c'est le projet. En fait, quand on travaille en sophrologie, quand on travaille une chose, quand on travaille une problématique, on travaille la globalité. On travaille sur la globalité de notre corps, notre psyché également. Donc, effectivement, bien. Si on maîtrise parfaitement cette respiration, on pourra à un moment, au moment où on arrive devant notre copie ou même avant, faire descendre cette respiration qu'on maîtrisera totalement, toujours avec cette concentration sur notre corps et non pas se laisser submerger par nos émotions. Et qui est toujours la même, la peur.
D'accord, exactement. Donc vous avez parlé, oui, de méditation. Vous pensez que la méditation, c'est un bon remède pour ceux qui voudraient s'y mettre, pour éventuellement essayer d'arrêter, les insomnies?
Donc, alors oui, la méditation, seulement tout le monde n'a pas accès à la méditation. Quand on est jeune, moi je préconise, quand on est plus âgé aussi d'ailleurs, je préconise le sport. Voilà, ça c'est ça, je suis claire avec ça. Une
À quelle
activité.
fréquence à peu près?
Quand on peut, oh, déjà au moins une fois par semaine, voilà, c'est déjà, si on n'est pas sportif, déjà au moins une fois par semaine, et si on est sportif, deux fois, trois fois, voilà, on peut faire du sport à tout petit prix en allant courir, hein, tout simplement.
Exactement.
Ici à Lille, on a un magnifique parc, enfin, Bois de Boulogne, et on peut tout à fait courir.